voix nue. Toute cette semaine, Judith Maillère rencontre Charles Anderlin. Ce soir, enquêter sur un siècle de politique au Moyen-Orient.
Bonsoir Charles Anderlin.
Bonsoir.
Alors vous êtes correspondant permanent de France 2 à Jérusalem depuis 1981. Vous êtes grand reporter depuis 1988 et vous avez entamé votre carrière d'essayiste avec la publication de la biographie de Yitzhak Shamir en 1991 aux éditions Olivier Orban. Sur votre lancée, vous commencez à réunir de la documentation pour ce qui deviendra Paix ou guerre, une véritable somme sur les secrets des négociations israélo-arabes au XXe siècle. Qu'est-ce qui vous a incité à entreprendre cette démarche, Charles Anderlin ?
Écoutez, à force de faire de la télé et des papiers radio, j'ai eu l'impression que mes neurones commençaient à disparaître. Faire des textes ou des reportages qui font télé ou radio d'ailleurs 1 minute et demie, 2 minutes, exceptionnellement un documentaire de 4 minutes, c'était totalement réducteur. Et puis j'ai eu envie d'aller au-delà de l'information dans l'immédiat, savoir quels sont les tenants et aboutissants. Alors Shamir est finalement un des premiers ministres israéliens qui ont extrêmement influencé l'histoire du pays. Alors mon idée était d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait. Et j'ai retrouvé des textes assez extraordinaires de ce Shamir dans la clandestinité, patron du groupe Stern, reçoit des jeunes juifs palestiniens à qui il explique que ben nous, face à l'Empire britannique, on n'a pas le choix. Notre seule arme, ça doit être le terrorisme. Et là, j'ai, au fil des mois, j'ai découvert un phénomène assez intéressant, savoir la réécriture un peu de l'histoire. Les autobiographies écrites par les anciens de l'Irgun, l'Irgun de Menachem Begin et du groupe Stern, de Shamir et des deux autres, parce qu'il s'était un triumvirat à la tête du groupe Stern, il y a une période où on justifie le terrorisme anti-britannique, le terrorisme anti-arabe, et puis tout à coup, après ce qui paraît après la guerre de six jours, on n'aime pas tellement utiliser le terme terrorisme, et parce que cette fois, ce sont les autres qui font du terrorisme. Alors, ce qui était assez rigolo, je crois que c'est en 68, quelqu'un a demandé à Shamir, écoutez, le terrorisme, l'OLP, le Fatah, tout ça, comment est-ce que vous les jugez? Qu'est-ce que c'est pour vous? Et Shamir a dit, écoutez, ce n'est pas très professionnel, et nous, on n'allait jamais dans les hôtels de luxe. Alors que l'OLP était dans les beaux hôtels de Beyrouth et par la suite de Tunis. Donc c'était assez marrant. J'ai une énorme question sur qui était en réalité Shamir. Il apparaît tout à coup. Ses parents étaient des militants communistes d'un réseau secret installé en Pologne orientale. Et lorsque l'armée rouge en 38 a occupé cette région de Pologne, le père de Shamir est devenu commissaire responsable du commerce des cuirs et peaux. C'est un dans la hiérarchie soviétique, NKVD, c'est très important. Seconde guerre mondiale, le groupe Stern de Shamir continue le combat contre les Britanniques alors que l'Irgun a arrêté, a repris que lorsque la victoire sur les nazis était certaine. Avram Stern, le chef du groupe, a quand même envoyé des militants aller parler aux représentants du Reich en Turquie pour sur le principe les Britanniques sont notre ennemi, vous êtes vous les Allemands les ennemis des Britanniques, donc nous pouvons faire alliance. Ça a coûté la vie d'Avram Stern qui a fini par se faire descendre par un policier britannique.
Et je vous interromps, Charles Anderlin, mais tout ça, vous l'avez appris grâce aux archives ?
Oui, les histoires, les archives, il a fallu retrouver, courir. Interviewer les anciens du groupe Stern avec des histoires fabuleuses. Le premier attentat bactériologique qui finalement n'a pas eu lieu et qui devait se faire depuis Paris avec des militants qui travaillaient à l'Institut Pasteur et qui avaient préparé des fioles avec le choléra pour aller le mettre dans l'adduction d'eau de Londres. Ça aurait été intéressant. arrive l'indépendance de l'État d'Israël, et puis ça y est, le groupe Stern crée un parti politique qu'il voulait d'ailleurs présenter, se considérant comme le principal adversaire, le principal ennemi de l'impérialisme occidental. Il voulait être membre de l'Internationale communiste. Et c'est à ce moment aussi que le groupe Stern a fait assassiner un médiateur de l'ONU, le comte Bernadotte, et au lieu de partir à Prague présenter la candidature de ce nouveau parti politique du groupe Stern, ils ont terminé en tôle, en détention administrative selon les lois antiterroristes britanniques de l'époque, ce qui est quand même assez paradoxal.
Et Yitzhak Shamir, vous l'avez interviewé vous-même, Charles Antonin ?
Oui. Il parlait très peu, il racontait très peu. C'est un homme pour qui le secret, ben c'était vraiment le secret. On ne parlait pas. J'ai eu quelques détails de lui. Et puis pour le reste, c'est surtout ses amis, ses proches, ses amis d'enfance. Ça, c'était une histoire. Après ça, j'ai décidé d'aller un peu plus loin. C'était chez Stock. Une grande dame de l'édition, Monique Nemer, me dit ben, « Écoute, tu fais un livre sur toutes les négociations. » Alors je commence à fouiller, chercher, interviewer, ramasser des papiers. Et puis je l'appelle, je dis « Écoute, j'ai 300 pages. » « Ça fait rien, tu continues. » « Ok, après, écoute, j'ai 500 pages. » « Ça fait rien, tu continues. » Finalement, le bouquin a fait 900 pages. Avec là aussi une découverte. J'ai appris à me méfier d'une manière phénoménale des archives. Au lendemain de la signature des accords de Camp David entre le Premier ministre israélien Menachem Begin et Anwar el-Sadat, en présence de Jimmy Carter, il fallait rédiger le texte du traité de paix entre Israël et l'Égypte. Et Begin a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Moshe Dayan, à Camp David, et Sadat Boutros Rali, qui par la suite est devenu secrétaire général de l'ONU. Et j'ai retrouvé des papiers et je demande à un gars que je connaissais, un gars des renseignements militaires, qui je savais qu'il était dans cette négociation à Camp David. Je lui ai dit, j'ai les papiers. Il me dit, ces papiers ne veulent rien dire. Ah bon, pourquoi ? Moshe Dayan, ministre des Affaires étrangères, tous les soirs réécrivait les procès-verbaux, réécrivait le tout pour ne pas que Menachem Begin sache exactement ce qui s'est passé dans la négociation.
Donc vous découvrez que les archives ne sont pas fiables, hein, et là, comment décidez-vous de procéder, Charles Anderman ?
Alors ça, c'est pour mon travail suivant, où j'ai décidé, lorsque Ehud Barak est devenu Premier ministre, chef du Parti travailliste, annonce qu'il va négocier le statut définitif des territoires palestiniens, la paix avec les Palestiniens. Et connaissant personnellement aussi bien les négociateurs palestiniens qu'israéliens, je leur demande s'ils acceptent de me donner des interviews en temps réel afin d'aborder mon livre, étant entendu que je ne diffuserai rien avant 2002-2003.
Alors, resituons historiquement cette période. Yitzhak Rabin, qui a reçu le prix Nobel de la paix avec Shimon Peres et Yasser Arafat en 1994 pour les accords d'Oslo, a été tué en 1995 par un jeune juif orthodoxe. Donc, est-ce que ça a eu aussi une influence sur votre choix d'archiver
Non, c'est avant. La période mon gros livre « Paix ou guerre ». Effectivement, je suis allé. Le livre se termine avec l'assassinat de Rabin. Mais j'ai aussi réalisé à ce moment-là la recherche sur tout ce qu'il y a eu dans les coulisses d'Oslo.
Maintenant, vous avez mené ces deux chantiers en parallèle, Charles Anderman.
Oui, bien sûr, j'ai ramassé du matériel au fur et à mesure.
Et là, vous avez quel âge ?
Barak, c'est 2000.
Barak, c'est 2000. Et là, vous avez, en 95, vous avez quel âge à peu près ?
Bah, écoutez, 95, vous enlevez 1945, on fait le calcul.
Donc là, vous êtes en train de finir ce livre, Paix ou guerre, et en même temps, vous commencez à filmer des entretiens.
Non, ça, c'était après. Donc... Rabin est assassiné en 95, novembre 95. Ehud Barak est arrivé au pouvoir début 99, après la période Netanyahou. Mais si vous voulez bien, revenons à l'assassinat de Rabin. Oslo a été un moment fabuleux. Je me souviens du moment où Rabin et Arafat ont échangé leurs lettres de reconnaissance avant la cérémonie à Washington sur la pelouse de la Maison-Blanche. Jusqu'à ce moment-là, les Palestiniens n'avaient pas le droit d'agiter leur drapeau, leur emblème national. Des Palestiniens sont morts en agitant leur drapeau. Et ça y est, les deux organisations se sont maintenant reconnues, Israël, OLP, et ça y est. Alors, c'est à l'entrée d'un camp de réfugiés à Gaza. Il faut voir la scène. Il y a une jeep. Deux gosses s'approchent et mettent deux petits drapeaux palestiniens sur la jeep. Et les militaires israéliens laissent faire et rigolent. Et les gens regardent. Et tout à coup, vous avez une marée humaine qui sort du camp de réfugiés avec des drapeaux sur des camions, des voitures, à pied. Et tout à coup, à Jérusalem, sur une des routes reliant l'Est et l'Ouest, je commence à voir des drapeaux palestiniens qui passent. Voilà, ça y est, tout a basculé, on va vers un accord israélo-palestinien. Très vite, la droite israélienne et les sionistes religieux, les colons, l'ont refusé. On me disait, dans la colonie de Hébron par exemple, la main qui, on me citait, une citation d'un rabbin nationaliste, le rabbin Cook, qui avait dit en juillet 1967, la main qui cédera un pouce du territoire de la terre d'Israël sera coupée. Dans des manifestations, des gens me disaient, on prépare les armes, cet accord ne sera pas réalisé. J'étais à toutes les manifestations, la plupart dirigées d'ailleurs par un certain Benjamin Netanyahou, où on entendait les hurlements « à mort Rabin, à mort Pérez ». C'était Rabin Pétain et Pérez Laval. C'était les grands thèmes à ce moment-là.
Donc vous étiez pessimiste, Charles Anderlin, à ce
moment-là ? Non, persuadé qu'il allait se passer quelque chose. Persuadé que... Je l'ai dit d'ailleurs à ma rédaction, je l'ai dit à ma directrice, à Michel Cotta, il va y avoir des morts. Et je filme un soir une cérémonie kabbalistique, je crois que c'était en début octobre 95, devant le domicile de Rabin, de la prière kabbalistique pour la mort de Rabin. Et je suis seul à la filmer. Et j'appelle les rédactions israéliennes, je leur dis « je peux vous passer les images ?» On me dit « laisse tomber, c'est des imbéciles ». On arrive à cette fameuse manifestation pour la paix avec mon épouse Danielle. On est très fouillé par le Shin Bet. Et puis ça se passe formidablement bien. La manifestation se termine. Et j'avais un problème avec mes équipes. Je les faisais toujours rester à toutes les manifs jusqu'à la dispersion complète. Et là, vraiment, ils me regardaient de travers. Il y avait un autre caméraman qui enterrait sa vie de garçon. Et une fois de plus, je les coinçais. Jusqu'à la fin d'une manif qui s'est bien passée, il y en a marre. Il me regarde, encore une fois. Et puis on voit des policiers courir. Et je leur ai dit, va voir ce qu'il y a derrière. Et ils m'appellent, ils me disent, on a tiré sur Rabin. Et c'est comme ça qu'on a été la seule chaîne au monde à avoir les images de l'arrestation de l'assassin d'Yitzhak Rabin. C'était complètement prévisible. D'ailleurs, j'ai reçu... un message par beeper de l'organisateur de la cérémonie kabbalistique que je viens de décrire en disant « Tu vois, ça a marché, il est mort. » Shimon Peres a tenté de relancer les négociations, mais là on a eu l'autre élément, l'autre ennemi de la paix, les islamistes de Gaza et de Cisjordanie qui ont lancé des campagnes d'attentats suicides pour empêcher la création d'un État palestinien, un accord entre Israël et l'OLP. En l'occurrence, les extrémistes des deux camps étaient des alliés objectifs. Et ça a conduit très vite à l'élection de Benjamin Netanyahou, qui a relancé assez rapidement la colonisation. Et si on relit les textes et les interviews de Netanyahou, il ne fallait absolument pas être surpris. L'histoire d'un État palestinien s'est assez éloignée.
Et c'est à ce moment-là, justement, que vous commencez à enregistrer les entretiens négociateurs, Charles Anderlin.
Netanyahou perd les élections, Ehud Barak est élu, et comme je vous l'ai dit, décide de lancer la négociation sur le statut définitif avec Arafat. Je n'avais pas confiance en Ehud Barak. Je l'avais connu personnellement. Je ne croyais pas du tout qu'il était capable ou qu'il avait vraiment envie de le faire. Maintenant, pragmatisme, et puis un homme d'État peut prendre des décisions surprenantes. Et les négociateurs des deux camps acceptent de me donner des interviews en temps réel, étant entendu que je ne diffuse rien avant l'an 2000-2003. Et je prends une petite caméra, je vais faire Saeb Erekat pendant une heure, deux heures, selon une autre technique, à savoir laisser parler les gens dans l'interview jusqu'à ce qu'ils oublient complètement qu'ils ont une caméra et un micro devant eux. Et tout le monde, bien entendu, a dû promettre le secret sur la négociation, puis voilà Anderlin qui arrive et qui veut les secrets de la négociation. Eh bien, oui, ça a marché. Michel Cotta m'a dit « Ah, tu as toutes ces cassettes, eh bien, écoute, tu fais un documentaire. » Et on a mis un réalisateur, Dan Seton, qui a deux Emmy aux États-Unis et qui a fait des films formidables sur le coup. Et à deux, nous avons fait ce premier film qui s'appelle « Le rêve brisé », avec, en parallèle, bien entendu, le bouquin, puisque tout ça est maintenant, on va pas me dire, on n'a pas dit, on n'a pas fait. C'est sur la table, les gens ne peuvent pas démentir tout ce matériel, ce que pourtant certaines organisations ont tenté de faire.
Et comment vous avez travaillé avec le réalisateur Dan Seton, Charles Anderlin ?
Parfois difficilement, avec de grosses séances de brouille. Un bon réalisateur de télé veut d'abord donner la priorité à l'image, la bonne image. Et si quelqu'un est particulièrement laid et parle mal, eh bien, il ne faut pas le passer à l'image parce que les gens vont fermer le poste. Mais si le journaliste pense que les déclarations, l'interview de cette personne laide est tellement importante, eh bien, il faut trouver moyen de la passer parce que c'est du journalisme et c'est de l'information. Donc, c'est toujours la bagarre entre l'information et puis la qualité de l'image, la qualité du travail du réalisateur. Je me suis un peu heurté moi-même à ce dilemme lorsque j'ai réalisé mon dernier film.
Mmh. Mais alors, vous avez réussi à coopérer avec Dan Seton, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que vous ayez réussi à convaincre des diplomates de tous bords de vous confier leur vision des pourparlers tout au long des négociations, sans méfiance.
C'est Charles les Anderlin. Amis. Gilad Shar, le principal négociateur israélien, était chef de cabinet du Premier ministre. C'est un grand avocat. Je le connaissais déjà depuis une vingtaine d'années. Côté palestinien, il y avait pas mal de monde que je rencontrais déjà dans les années 80, début des années 90. On buvait le café ensemble à l'American Colony. Il y a eu d'ailleurs des histoires assez intéressantes. Fin 93, après les accords d'Oslo, tout à coup, un copain palestinien m'appelle et me dit « Écoute Charles, j'ai un gros problème. Yasser Arafat m'a dit de faire une télé, une radio. Ah bon ? Est-ce que tu peux m'aider ? Je ne sais pas de quoi tu parles. » Et puis Anderlin, le franco-israélien, a appelé la présidence de France Télévisions à l'époque en disant « Écoutez, les Palestiniens nous demandent de les aider à faire une télé et une radio. » Et puis c'est comme ça qu'on s'est lancé dans la création de l'Office de radio et de télévision palestinien. La coopération a duré jusqu'au jour où j'ai appelé le président, qui était à ce moment-là Jean-Pierre Elkabbach, pour lui dire « Jean-Pierre, on arrête, il diffuse n'importe quoi ».
Mais avant d'arrêter, vous avez formé donc des journalistes de la télé
palestinienne,
Charles
Anderlin ? Déjà avec la première intifada, 87, 88, 89, l'armée israélienne décrétait des bouclages, des zones militaires interdites, où nous, presse étrangère, on ne pouvait pas rentrer. Donc il fallait avoir des images. On a commencé à distribuer des caméras à des Palestiniens. Je l'ai fait à un caméraman, un Palestinien de Gaza, qui est devenu très connu, et qui s'appelle Talal Abou Rahmeh, qui travaille encore maintenant pour France 2. J'ai eu j'ai eu des caméras, je crois que j'ai formé les premiers caméramans palestiniens au bureau de France 2. Je les rencontre encore régulièrement. Oui, ils ont appris, il n'y en avait pas avant.
Et de votre côté, après Le Rêve brisé, vous avez réalisé d'autres documentaires. Et toujours comme dans votre premier documentaire, vous réussissez à obtenir des confidences de représentants des différents bords et même des groupes
extrémistes. C'est les grandes interviews très longues que j'ai. J'en ai d'ailleurs des heures et des heures. De cela, on retire à chaque fois quelques minutes de ci, de là, l'essentiel. Je ne sais pas ce que je vais faire avec tout ce matériel. Je vais peut-être l'offrir à un centre de recherche. Vous savez, il y a des moments fondamentaux. Et puis, il y a une confiance réciproque qui s'instaure. Par exemple, le bureau de France 2 à Jérusalem est dans un studio où travaillaient les agences Reuters, Associated Press, AFP, CNN et compagnie. Et lorsque dans les ascenseurs ou dans le couloir, les collègues français, américains ou britanniques rencontraient un négociateur palestinien et puis après un négociateur israélien, ils se disaient, ils viennent donner des interviews. Et quand ils le voyaient rentrer chez moi, ils se disaient, ils donnent des interviews où ils font un débat chez Anderlin. En fait, ils rentraient, ils s'installaient dans mon bureau, ils fermaient la porte et ils commençaient à négocier. D'ailleurs, j'ai utilisé quelques-unes de ces images. Il y a eu ça avec des vraies négociations israélo-palestiniennes, alors en pleine intifada, alors que officiellement Ehud Barak interdisait la poursuite des négociations, mais il venait quand même négocier discrètement. Miguel Moratinos, l'émissaire européen, venait aussi dans mon bureau rencontrer pas mal de dirigeants palestiniens, ou alors Yossi Beilin, le ministre israélien de la justice, aussi avait des rencontres. Ça n'a pas servi à grand-chose, mais en tout cas, c'était un moment de grande confiance et puis d'espoir pour moi, et c'est croyant, et il aurait été formidable que quelque chose en sorte.
D'espoir pour vous, croyant, vous dites, Charles Anderlin, c'est-à-dire croyant de dans la.
Ça, il faut toujours espérer. C'était en plus un moment où, si les affrontements de la seconde intifada qui devenaient des affrontements armés, il n'y avait pas. Ensuite, début janvier 2001, il n'y avait pas encore les grands attentats suicides. Vous savez, quand vous regardez une société, et j'ai aussi travaillé en Égypte, il y a un moment où une société bascule. Et la société palestinienne n'avait pas encore complètement basculé dans l'affrontement avec Israël, comme c'est le cas d'ailleurs dans la période actuelle.
Oui, d'ailleurs, dans les années 2000, vous ne renoncez tout de même pas à aller documenter la réalité sur le terrain, Charles Anderlin, et vous avez même des confidences de combattants du Hamas en pleine rue. Donc, pour le documentaire Les années de sang, alors comment ça a été tourné? Comment ils vous ont fait confiance aussi?
Je suis allé les voir. J'ai toujours été. Si vous faites Wikipédia ou Google en arabe, vous tombez Charles Anderlin, franco-israélien. J'ai toujours été bien reçu chez tout le monde.
Et chez les rabbins messianistes aussi,
ça,
pour votre dernier documentaire
plus tard,
au nom
et même
du
avant,
temps.
Je rencontrais aussi des rabbins en Jordanie, en Égypte, à Gaza. J'ai toujours été reçu par tout le monde, y compris, je suis allé filmer pendant toute une période, des dirigeants du Hamas et du Djihad avec une équipe israélienne qui a été reçue.
Donc ça, c'est aussi la confiance dans l'usage que vous faites des images, Charles Anderlin.
C'est une confiance, c'est un peu une espèce d'alchimie que l'on finit par créer avec ses interlocuteurs.
Alors, vous alternez les formats courts pour la télévision, les œuvres au long cours sous forme de livres et de documentaires. Est-ce que ces trois dimensions vous sont nécessaires pour documenter correctement cette actualité complexe dont vous êtes vraiment un spécialiste au courant des années 2000 hein ?
Écoutez, pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. L'actualité en format court, au jour le jour, c'est d'abord profondément frustrant. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller jusqu'au bout des tenants et aboutissants des événements que l'on couvre. Et ensuite, le travail de livre, de recherche et aussi de télé me permet de voir aussi si je me suis trompé, si j'ai compris, si j'ai vu. Et puis c'est beaucoup plus intéressant d'aller retrouver les coulisses de cette réalité qui est de plus en plus dure.
Est-ce que en développant de nouvelles compétences, vous avez l'impression que votre regard et vos méthodes ont évolué? Et est-ce que votre perception de la situation géopolitique au Moyen-Orient a changé également, Charles Anderlin?
Écoutez, je ne crois pas, en tout cas, ce qui a changé en moi, surtout dans la couverture journalistique quotidienne, c'est un peu le refus de mettre l'accent sur l'émotion. Que ce soit en radio ou en télé, les correspondants, on leur demande d'amener des sujets avec de l'émotion pour accrocher le téléspectateur, accrocher l'auditeur. Alors que j'ai beaucoup plus tendance aujourd'hui, et ça a été ces dernières années ce que je faisais, notamment en duplex et un peu en reportage, ça a été essayer d'expliquer la réalité, de présenter une analyse.
Mais est-ce que vous, même si l'émotion est absente de vos reportages, est-ce que vous pouvez être bousculé par cette actualité ?
Oui, il y a des moments où effectivement on a les tripes, se retrouver à Gaza après un bombardement israélien et puis voir des dizaines de gosses blessés, c'est terrible. Ou arriver sur les lieux d'un attentat suicide, vous voyez des gens effondrés, vient d'y avoir un mort, des blessés, oui. Oui, l'émotion est là, il faut essayer de s'en couper.
Comment ?
Se couper de l'émotion, tout simplement, en se plaçant au-dessus, en essayant d'adopter l'attitude, je dis presque, d'un entomologue, de ne pas se laisser submerger par le sentiment, par la douleur, par l'horreur, par la peur, essayer de se retirer et d'essayer d'être professionnel, froid. C'est difficile, c'est compliqué, mais autrement, on ne tient pas. Autrement, vous savez, il y a eu des périodes des grands attentats suicides à Jérusalem. Les équipes israéliennes et les Palestiniens, ça a été des moments extrêmement difficiles. On a envisagé de faire venir une cellule d'aide psychologique. Il y a un moment où le Géry, le caméraman, m'a dit « Encore un enterrement, je ne peux plus ». D'ailleurs, il y a eu des enterrements auxquels je suis allé pour présenter, moi, des condoléances à des familles, à des gens que je connaissais. Et il n'y a pas le choix. Ou alors, on ne fait pas ce métier. Donc, il y a la vie privée, il y a les sentiments, et on essaye d'être froid et de regarder les choses d'un regard le plus professionnel possible. D'ailleurs, tous les correspondants dans ce genre de situation, tous les envoyés spéciaux vous le diront, c'est la même chose.
Et donc, vous, l'émotion, vous la ressentez après coup, Charles Anderlin ?
Parfois après, et puis sur le moment, oui, mais on la surmonte.
Merci Charles Anderlin. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Judith Mayer avec Charles Anderlin. À voix nue, attaché de production Claire Poissignon, prise de son Cédric Audra, réalisation Anne-Pascale Desvignes. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr.